VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, il est 13h, temps universel. Vous êtes sur VOA Afrique, c'est l'information de la matinée à Bujumbura. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, un troisième mandat présidentiel. Cette candidature, vous le savez, fait l'objet de controverses. Elle est la cause de nombreuses manifestations qui secouent le pays depuis plus d'une semaine. Les explications de Jean-Roger Billon.
Le renouvellement, une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel, au suffrage universel direct pour 5 ans, n'est pas contraire à la constitution du Burundi. C'est ce que dit l'arrêt signé par 6 juges sur 7. Le vice-président de la Cour a lui refusé de signer et fuit le pays dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Pierre Nkurunziza a déjà été élu 2 fois, en 2005 après les accords d'Arusha par le Parlement et en 2010 au suffrage universel direct. Le 25 avril dernier, son parti, le CNDD-FDD, l'a désigné candidat à la présidentielle du 26 juin. Cette désignation a déclenché une série de manifestations d'opposants à un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006. Le camp Nkurunziza ne cesse de répéter que la démarche est parfaitement constitutionnelle et que la constitution prévaut sur Arusha. Par ailleurs, le gouvernement burundais s'est dit prêt aujourd'hui à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation.
Et suite de cette situation au Burundi, avec le bilan hier des manifestations qui a été établi par le militant pour les droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, joint à Bujumbura.
C'est 5 personnes qui ont été tuées et il y a plus de 46 personnes qui ont été blessées. Il y a aussi des policiers qui ont été blessés à cause des grenades. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aussi, nous avons découvert que même à l'intérieur du pays, comme en province de Mwaro, comme ici à côté de Bujumbura, il y a Ijenda, il y a eu des manifestants et les routes étaient bloquées comme à Bujumbura. Pour dire que l'ampleur commence à prendre tout le pays. Et petit à petit, ça se rend dans toutes les provinces.
Et vous allez continuer à manifester contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza?
Écoutez, une fois que la population est décidée, ce n'est pas moi qui décide, c'est la population. Vous avez entendu qu'ils disent aux journalistes qu'ils vont marcher jusqu'au départ de Pierre Nkurunziza. Et je vois qu'ils sont déterminés, même s'il y a des morts, nous dirons qu'il y a toujours des victimes.
Voilà, Pierre Claver Mbonimpa, le président de la ProDH, l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, et notamment lauréat du prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits humains.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, affrontement entre des militaires et des rebelles à Ténénkou, ville de la région de Mopti, dans le centre du pays. Les combats font rage alors que la MINUSMA a exhorté dimanche toutes les parties au conflit à cesser les hostilités et évacuer les positions nouvellement occupées. Les chefs de 8 groupes armés centrafricains s'engagent ce mardi à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats ainsi qu'à cesser tout recrutement d'enfants. Ce serait une première dans l'histoire du pays. L'accord a été signé en marge du forum de Bangui qui réunit près de 600 participants durant une semaine pour la réconciliation nationale et discuter de l'avenir du pays. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Défense, Marie-Noëlle Koyara. Par ailleurs, le KNK, le parti de l'ancien président François Bozizé, boycotte ce forum de Bangui. Son secrétaire général Bertin Béa justifie cette décision par la mise à l'écart des principaux acteurs de la crise centrafricaine, à savoir les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia. On l'écoute.
Mais nous pensons que le gouvernement de la transition aurait pu créer les conditions d'une véritable réconciliation en amont. Mais nous avons eu le sentiment que ces autorités de transition se sont comportées exactement comme s'ils avaient remporté des élections et qu'ils traitaient les autres comme des moins que rien. Et donc, devant cette situation, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une position d'arbitre dans ce qui se passait. Parce que Mme Cheta de transition a été élue pour, n'est-ce pas, conduire le pays vers la réconciliation et de nouvelles élections. C'est ce qui est contenu dans la feuille de route, n'est-ce pas, qui lui a permis d'être élu. Aujourd'hui, cette feuille de route n'est plus respectée et nous pensons que la position des autorités est une position partiale, exclusive, et c'est un outil qui explique notre absence à la réunion du forum de Bangui.
Bertin Béa, secrétaire général du KNK, il était joint à Bangui.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et c'est une première historique. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est rendu ce mardi en Somalie Aucun chef de la diplomatie américaine n'avait jamais visité ce pays de la Corne de l'Afrique, en guerre et plongé dans le chaos depuis 1991. John Kerry a estimé que ce pays en guerre allait mieux depuis la mise en place d'institutions provisoires et le succès militaire contre les djihadistes des Shabab. On rappelle que John Kerry n'est resté que 3h30 sur l'aéroport de Mogadiscio. Conflit au Soudan du Sud, Washington, d'accord pour la création d'un tribunal pour juger les auteurs de crimes dans le pays. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire d'État américain John Kerry. Le point avec Morgane Guiriec.
Au cours de sa visite officielle au Kenya, John Kerry a dit soutenir la création d'un mécanisme judiciaire crédible, impartial et efficace, tel un tribunal hybride, pour que les responsables des violences puissent répondre de leurs crimes. Pour démarrer la mise en place d'une telle instance, Washington s'engage à donner 5 millions de dollars. Human Rights Watch avait proposé en décembre 2014 la création d'un tribunal hybride, comprenant des juges du Soudan du Sud et des juges internationaux. L'Union africaine aussi avait plaidé en faveur de la poursuite des responsables des crimes. Le conflit sud-soudanais a éclaté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les combats sont souvent accompagnés de massacres et atrocités contre les civils. Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le plus jeune pays du monde.
Coup de projecteur sur l'opposition camerounaise. Plusieurs ONG réunies au siège de la Fondation Kennedy ici à Washington ont lancé hier un appel en faveur du français Michel Thierry Atangana, mettant l'accent sur le fait que le gouvernement camerounais et Paris tardent à appliquer les recommandations des Nations Unies le concernant. Je vous rappelle que M. Atangana a été emprisonné pendant 17 ans au Cameroun sous l'accusation de détournement de fonds publics.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a reçu hier les représentants de la communauté éthiopienne au lendemain de manifestations les plus violentes des membres de ce groupe contre le racisme de la police et les discriminations sociales visant les falachas, ces juifs d'origine d'Éthiopie. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'audience qui visait à calmer la colère de cette communauté a duré plus de 3 heures. Monsieur Netanyahou, selon ses services, a insisté sur la nécessité d'être unis contre le phénomène du racisme, de le dénoncer et de l'éradiquer. Il a aussi chargé une commission ministérielle de s'attaquer aux problèmes d'intégration rencontrés par les Israéliens d'origine éthiopienne dans le domaine de l'éducation, du logement et de l'emploi. Plus d'une soixantaine de policiers et manifestants ont été blessés dimanche soir à Tel Aviv, selon un nouveau bilan policier, au cours d'une manifestation qui a dégénéré en émeute et provoqué un débat national sur le racisme. À l'origine, une vidéo montrant 2 policiers en train de frapper, sans raison apparente, il y a une semaine, près de Tel Aviv, un soldat d'origine éthiopienne en uniforme.
L'Italie a une nouvelle fois relancé mardi l'Union européenne en lui demandant de faire davantage face à l'afflux de migrants. Une 40aine de migrants auraient trouvé la mort lors d'un incident sur un canot pneumatique. C'est ce qu'ont raconté aujourd'hui des survivants arrivés à Catane, en Sicile. Un sommet des monarchies du Golfe s'est ouvert aujourd'hui à Riyad, en présence pour la première fois d'un chef d'État occidental, en l'occurrence François Hollande. Hôte du sommet, le roi Salman d'Arabie Saoudite a débuté la réunion avec une allusion à peine voilée à l'Iran, considéré comme le principal rival régional des pays du Golfe. Je vous rappelle que 5 des 6 pays de l'État du Conseil de coopération du Golfe se sont alliés depuis fin mars pour faire reculer les rebelles chiites au Yémen et enrayer ce qu'ils perçoivent comme une tentative de mainmise de l'Iran sur ce pays dans la péninsule arabique. Et puis on va vous donner quelques résultats de sport. Le football africain, tirage au sort hier de la phase de la groupe de la Ligue des Champions. Tout est fin prêt au siège de la CAF où évidemment ce tirage au sort a eu lieu. Le premier chapeau comprend Sétif d'Algérie, le tenant du titre, mais aussi le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière édition et équipe la mieux classée des 8 candidats au trophée cette année. Le deuxième chapeau est celui des clubs soudanais Al Hilal et El Merher. Enfin, le troisième chapeau rassemble les clubs algériens du SMA, des Oulma, ainsi que les Égyptiens de Smouha et les Marocains du Maghreb de Tétouan. Justement, le Maghreb de Tétouan qui est à l'origine du limogeage de l'entraîneur du club égyptien d'Al Ahly. L'Espagnol Carlos Garrido fait les frais de l'élimination d'Al Ahly en 8e de finale. On va également vous donner un mot pour vous dire les demi-finales de la Ligue des Champions qui commencent ce mardi ce soir à Turin. Le choc Juventus de Turin contre le Real de Madrid. Et demain à Barcelone, le FC Barcelone contre le Bayern de Munich. Prochain point sur l'information dans 1 heure sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur